Vous écoutez On lit pour vous.
Pas si vite dans ma cour. Un texte de Angie Landry, publié dans l'actualité édition de novembre 2025. En sous-titre, la crise du logement ne justifie pas la construction tous azimuts, disent des citoyens qui réclament des moratoires, comme à Sainte-Adèle. Des municipalités rurales à la marge des couronnes de grandes villes sont sous pression depuis quelques années. C'est le cas notamment de Sainte-Adèle dans les Laurentides, où des promoteurs immobiliers désirent profiter de l'attrait que représente pour les retraités et les télétravailleurs cette région qui s'est développée historiquement grâce au tourisme et à la villégiature. Trois projets immobiliers créent d'importants remous dans cette ville de 15 027 habitants. Celui du Bourg du Lac prévoit la construction de 42 logements locatifs de luxe. Le projet de revitalisation de l'ancien centre de villégiature Chanteclair annonce l'ajout de 1 300 portes et 51 lots résidentiels doivent voir le jour sur le terrain de golf alpine. Au moyen d'une pétition, des centaines d'Adélois ont demandé au printemps 4 moratoires pour freiner « l'urbanisation rapide » dont un qui viserait tout nouveau lotissement. Il ne serait pas juste d'évoquer ici le « pas dans ma cour », tranche Gérard Baudet, professeur titulaire de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, qui constate de plus en plus de dilemmes du genre, notamment à Mont-Tremblant, à Stoneham et dans certains secteurs en bordure du lac Memphrey-Magog. On bâtit beaucoup et vite partout au Québec, « au nom de la crise du logement », critique l'urbanisme. Citation, il faut prôner un meilleur équilibre, dit-il, quitte à revoir et adapter la réglementation municipale. À Sainte-Adèle, le projet Le Bourg du Lac, par exemple, soulève une question environnementale en raison de la présence du lac Rond, emblématique au centre-ville, et sous pression depuis des années à cause des nombreux lotissements. Des voisins, Dominique Pilon et Christian Chauveau, ont été étonnés un matin d'octobre 2024, de constater que le constructeur avait coupé des arbres de la bande riveraine, que la ville les avait semés de revégétaliser chez eux 10 ans plus tôt. Citation, ils ont rasé 6 acres, 3 acres de forêt en 2 jours, raconte le couple. En août dernier, la ville a suspendu le permis de construction du promoteur à la suite d'une nouvelle analyse environnementale. Selon Gérard Baudet, une bonne partie des municipalités québécoises ne sont pas outillées pour répondre à la pression exercée par certains promoteurs, lesquels, instrumentalisent la crise du logement. Jusqu'à tout récemment, à Sainte-Adèle, il était, citation, presque impossible d'interdire la construction à moins que les zones soient considérées comme humides ou sensibles, admet la mairesse sortante Michèle Lalonde. C'est sans compter l'impossibilité de s'appuyer sur du zonage agricole pour protéger ses terres. Citation, si on refuse un projet quand la réglementation le permet, on risque d'être poursuivi par le promoteur, ajoute-t-elle, fin de citation. Une nouvelle politique d'habitation a été adoptée à quelques jours du début de la campagne électorale municipale. Ces balises pourraient servir à la prochaine équipe en poste. Le professeur Baudet cite en exemple la ville de Longueuil qui mise sur « un urbanisme négocié » où des promoteurs se font offrir un lotissement en échange d'un pourcentage de logements sociaux. La densification doit être pensée en tant que « projet urbain », donc « autour des habitudes de vie » des citoyens. On doit ainsi réfléchir en amont « à l'emplacement des écoles, des parcs et des garderies, dans le secteur résidentiel. Citation, il faut arrêter d'être strictement un terreau d'accueil de projets immobiliers. Fin de ce texte titré « Pas si vite dans ma cour », signé Angie Landry et publié dans l'actualité édition de novembre 2025.
À Marseille, une monnaie transforme les déchets plastiques en cadeaux. Un texte de Myriam Bioud, paru le 24 novembre 2025 dans La Presse. Marseille. Tout a commencé avec une passion pour la nage en mer et une question. Que faire des déchets ramassés dans la Méditerranée? Emmanuel Lorrain, président de l'Association Sauvage Méditerranée, a trouvé la solution. Fabriquer la Sauvage, une pièce de monnaie faite de déchets, la distribuer aux bénévoles qui nettoient le littoral et la dépenser dans des commerces respectueux de l'environnement. La mer est agitée à Marseille en ce dimanche sur la place du Prado. Des bénévoles avancent avec des sacs poubelles. Rassemblés par l'association Un déchet par jour, ils arpentent digues, plages et pelouses à la recherche de trésors abandonnés. « Ça pue la mort », lance Chariot Oriol. Accroupie entre les rochers, elle vient de trouver un beau butin, quelques bouteilles de bière et des morceaux d'objets abîmés par leur passage dans l'eau. Depuis 2 ans, la jeune femme participe régulièrement au ramassage organisé par l'association. « Ce qui m'a motivée, c'est de voir la quantité de déchets qui sont dans la mer et de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit que moi. » Daryl Anag, jeune homme arrivé récemment en France, n'a pas tardé à faire de même. « Je pense que chacun devrait faire de son mieux pour éliminer la pollution », lance-t-il avant de compter ses découvertes. Des bouteilles en plastique, plein de sandales et des mégots un peu partout. Une bière, un biscuit ou un spectacle offert. Au bout d'une heure, le résultat est au rendez-vous. 3000 mégots et 45 kilos de déchets collectés. Anne-Christelle Beauvois, bénévole et trésorière de l'association, prend la parole pour remercier les troupes. « Vous avez fait une action merveilleuse. Regardez cette mer. Dedans, il y a des dauphins et des baleines. Et ces déchets-là, ils ne les mangeront pas. » Mais la récompense ne s'arrête pas là. Elle sort un petit sac en toile dont elle extrait des pièces bleutées qu'elle distribue à tous les participants. Si tu vas chez Fada Bike, en échange de cette pièce, ils peuvent te donner un cookie délicieux. Chez Zoumaï, tu peux avoir un kombucha et tu peux ensuite déposer la pièce dans une tirelire pour nous faire un don. En 2024, on a récolté 1500 euros, comme ça, explique la militante à Michela Luzzi, qui vient pour la première fois. C'est un bon moyen de faire du bénévolat et d'avoir quelque chose qui motive les gens à nous rejoindre. La jeune femme compte utiliser sa monnaie sauvage pour boire une bière dans une brasserie locale. Célia Vertino débute, elle aussi, dans l'association, mais elle préfère épargner. J'ai vu qu'avec 4 jetons, on peut avoir une place de spectacle. Je vais mettre de côté et voir les prochaines offres. Transformer et redistribuer. Côté face, la mer Méditerranée. Côté pile, un S pour monnaie sauvage. Une création de l'Association Sauvage Méditerranée, présidée par Emmanuel Lorrain. Il a commencé à parcourir le littoral méditerranéen à la nage lorsqu'il a déménagé à Aix-en-Provence. « J'ai été frappé par la beauté, mais aussi par les déchets », se souvient l'inventeur, qui n'a pas exagéré. Selon un rapport du World Wild Fund, WWF, de 2025, la mer Méditerranée est la plus polluée du monde et les villes touristiques françaises comme Marseille, Cannes et Nice sont les premières responsables. Désireux d'agir, il s'est lancé en 2017 dans un périple de 120 km à la nage entre Marseille et Toulon. Bilan, 100 kg de déchets récoltés. Pour les transformer, il crée un atelier de recyclage où l'on peut traiter deux types de plastique, le polyéthylène et le polypropylène, que l'on trouve dans les bouchons, les bidons. Ils deviennent des objets du quotidien, comme des bijoux ou des sacs vendus à des particuliers et des trophées destinés aux entreprises. On a choisi de redistribuer une partie de notre bénéfice aux associations de protection de l'environnement qui sont nos fournisseurs de matières premières, nous dit M. Lorrain. La monnaie sauvage donne un avantage aux bénévoles et les associations partenaires sont des bureaux de change. À la fin, le bénévole reçoit un avantage et dépose la pièce dans une tirelire chez les commerçants. Elle se transforme en don de 5 euros pour une association, résume-t-il. Une vie éco-responsable accessible. La sauvage est acceptée dans 50 commerces. Chacun choisit l'avantage qu'il propose en retour. Un produit, une réduction ou un panier de produits. Chez Marie Goello, qui gère la boutique atelier Les Flamants Verts, on peut acheter un bijou sauvage ou avoir une réduction sur un atelier. Ça fait 15 euros au lieu de 20 euros pour faire sa crème hydratante soi-même, à peu près le même prix qu'au supermarché, indique la commerçante. Il faut continuer d'expliquer aux gens que ce n'est pas un jouet, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à le dépenser, souligne-t-elle. Pour les commerçants, les avantages sont nombreux, selon Emmanuel Lorrain. Se faire connaître, déplacer de nouveaux clients, être médiatisé. Pour les consommateurs, Sauvage ouvre de nouveaux horizons. Ils découvrent qu'avoir une vie éco-responsable n'est pas forcément plus cher, observe Anne-Christelle Beauvois, qui finit le ramassage en brandissant un livre sur les méfaits du plastique. À ce jour, 2 500 euros de dons ont été distribués aux associations grâce à Sauvage. L'objectif d'Emmanuel Lorrain est de répandre la monnaie sur tout le territoire méditerranéen dans les 3 prochaines années. C'était, à Marseille, une monnaie transforme les déchets plastiques en cadeaux, un texte de Myriam Bioud, paru le 24 novembre 2025 dans la presse.
Des services publics pour tous, sauf les personnes en situation d'itinérance. Un texte de Alexandra Tanguy, paru le 6 décembre 2025 dans Le Devoir. La crise de l'itinérance est bien réelle et bien visible. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a urgence d'agir pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. La nouvelle mairesse de Montréal a même fait appel à la solidarité de tous les citoyens. Pour faire face à la crise, nous avons besoin de l'implication de tous. Pendant ce temps, Service Québec semble non seulement avoir manqué le bateau, mais aussi ramé à contresens. Plusieurs personnes en situation d'itinérance sont bénéficiaires de l'aide sociale. N'ayant pas d'adresse ni de compte en banque, chaque début du mois, elles se déplacent au bureau de Service Québec pour recevoir leur chèque. L'accès à un service en personne est donc nécessaire pour elles, et elles y ont droit. Nos services publics ont la responsabilité d'offrir un service sans discrimination. Or, fin octobre 2025, les gestionnaires des bureaux de Service Québec, BSQ, de l'Est et du Sud-Est de Montréal, ont demandé que des organismes communautaires assurent ce service à leur place. En soutenant que les personnes en situation d'itinérance sont dérangeantes. Un mois plus tard, nous apprenions que le bureau de l'Est de Montréal fermerait définitivement le 15 décembre 2025 sous le motif que les personnes peuvent recevoir leurs prestations par dépôt direct. D'autres bureaux fermeront également dans d'autres régions. Est-ce une tendance qui s'étendra en encore plus de bureaux? Plusieurs questions se posent ici. Le refus de servir des personnes en raison de leur situation d'itinérance. Les gestionnaires des bureaux de service Québec se justifient par des propos déshumanisants et stigmatisants envers les personnes en situation d'itinérance. Ces justifications sont profondément inquiétantes. Elles mènent à une discrimination systémique. Comment vous sentiriez-vous si l'on vous refusait l'accès à un service public à cause de votre apparence et de votre statut social? L'accès équitable aux prestations est à risque à cause de la fracture numérique. Le dépôt direct exclut les personnes n'ayant pas accès aux outils technologiques ou les connaissances nécessaires pour s'en servir, ainsi que les personnes n'ayant pas de compte en banque. C'est le cas de plusieurs personnes en situation d'itinérance. Ces mesures vont à l'encontre des principes d'universalité et d'accessibilité qui doivent guider les services publics. Imaginez que les personnes n'aient même plus accès à leur faible prestation de 835 $ par mois. La déresponsabilisation des institutions publiques de leur rôle fondamental. Il s'agit d'un autre cas où les services publics tentent de se décharger de leurs responsabilités pour les transférer au milieu communautaire en itinérance qui est déjà débordé. Les organismes communautaires répondent aux besoins des communautés et non à ceux du gouvernement. Ils font déjà de l'accompagnement psychosocial vers l'accès aux services publics dans la défense de droits et dans la réponse aux besoins essentiels. Nourriture, produits d'hygiène, vêtements, billets de transport, etc. Comment pouvons-nous demander aux organismes d'en faire encore davantage? Bref, cette situation illustre un système déshumanisant qui crée des obstacles plutôt que des solutions. Les BSQ doivent demeurer ouverts et accessibles à toutes et tous. Les services en personne doivent être maintenus et renforcés. Les employés des BSQ doivent recevoir une formation adéquate pour offrir un accueil digne et respectueux aux personnes en situation d'itinérance. Les services publics doivent assumer pleinement leurs responsabilités envers la population et ne pas demander aux organismes communautaires de remédier à leurs manquements. Nous appelons à une mobilisation collective pour défendre le droit à des services publics accessibles, inclusif et respectueux de la dignité de toutes les personnes. Nous serons vigilants face à toute initiative qui compromettrait ces principes et nous continuerons à nous organiser pour faire entendre les voix des personnes les plus marginalisées. C'était des services publics pour tous, sauf les personnes en situation d'itinérance. Un texte de Alexandra Tanguay, paru le 6 décembre 2025 dans Le Devoir.
Une année de recul des droits et libertés. Un texte de Pierre Trudel, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. L'année 2025 a fourni l'occasion de prendre la mesure de la fragilité des droits et libertés. Tant au Québec que dans d'autres gouvernements, les dirigeants ont multiplié les mesures qui en entravent l'exercice. S'agissant des droits des peuples autochtones, la professeure Karine Miller explique que le projet de constitution québécoise, examiné actuellement à l'Assemblée nationale, s'en tient à des généralités à l'égard des droits des Premières Nations. Pourtant, le Québec est lié par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce texte oblige l'État québécois à développer avec les peuples autochtones les politiques qui touchent à leurs droits, de respecter leur consentement et leur autonomie, de même que leur droit d'accéder aux services publics sans discrimination. Oublier les droits des premiers peuples est presque une habitude. Les droits et libertés ne s'exercent pas dans les nuages. Leur effectivité dépend souvent de la capacité d'agir d'organisations disposant de moyens. L'introduction de dispositions interdisant à des associations syndicales ou à des ordres professionnels de dépenser des fonds pour contester la validité des lois devant les tribunaux met les droits fondamentaux à la merci du bon vouloir gouvernemental. Comme plusieurs autres, les professeurs Noura Karazivan et Martine Valois expliquaient, dans un mémoire soumis à l'Assemblée nationale, que le respect effectif de l'état de droit s'oppose à des mesures qui entravent la capacité concrète des justiciables de s'adresser aux tribunaux pour faire trancher la validité constitutionnelle d'une loi, d'un règlement ou d'un acte du gouvernement. Ce même projet de constitution énonce que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Mais une telle disposition pourrait être abrogée par n'importe quel gouvernement majoritaire qui n'aurait que faire du droit des femmes. Depuis l'invalidation aux États-Unis de l'arrêt Roe versus Wade, des mesures ont fragilisé le droit des femmes d'accéder aux soins de santé. Le moment est mal choisi pour insérer dans les lois québécoises une prétendue garantie qui pourrait devenir une cible pour les groupes hostiles aux droits des femmes. Le recul des droits et libertés se manifeste par la perversion de leur sens. Aux États-Unis, l'utilisation des pouvoirs présidentiels pour gracier les amis et pour chasser les adversaires politiques a fait reculer l'idée que les États-Unis sont gouvernés par un régime dans lequel tous sont soumis aux mêmes lois, ce qu'on désigne sous le nom d'État de droit. La semaine dernière, l'agence Science Presse rapportait que le gouvernement américain annonçait son intention de refuser des visas aux vérificateurs de faits et modérateurs de contenus en ligne. L'état de droit est au plus mal lorsqu'un gouvernement se met à définir la vérification des faits et la modération en ligne comme des actes de censure. Au nombre de ceux qui peuvent éclairer leurs semblables avec des faits vérifiés, il y a les universitaires. En déclarant la guerre aux universités, accusées d'antisémitisme et de wokisme, le président Trump leur a expédié une liste de mots interdits dans leurs recherches et leurs demandes de subventions. On accuse les universités d'inaction contre ce qui est abusivement désigné comme de l'antisémitisme. En confondant les critiques des politiques du gouvernement au pouvoir en Israël avec l'antisémitisme, plusieurs se forgent un prétexte pour saper les capacités de débattre dans les espaces des universités. Les minorités LGBTQ+, sont aussi dans le viseur de plusieurs mouvances populistes. Désormais, il est risqué de se présenter aux douanes américaines avec un passeport indiquant une mention « autre » à la case « sexe ». À ces violations caractérisées des droits que l'on croyait pourtant acquis, se sont ajoutées les politiques négationnistes sur l'esclavage et la ségrégation raciale. Le tout accompagné d'actions de réhabilitation de figures historiques qui se sont illustrées par leurs actions racistes. Au niveau international, des crimes de guerre demeurent impunis. De possibles crimes de guerre ont été recensés en Ukraine, dans la bande de Gaza et même dans les eaux internationales voisines du Venezuela. Mais les instances internationales demeurent impuissantes puisque des États font fi des conventions mises en place au cours du XXe siècle pour tenter d'assurer le respect de la dignité humaine. Pire, les juges, chargés d'appliquer le droit international, sont traqués comme des criminels par des États qui ne reconnaissent pas l'autorité de ces instances. À ces chasses aux juges, lancées sans la moindre inhibition par des régimes autoritaires, s'ajoutent les dénonciations répétées de ce que certains désignent comme le gouvernement des juges. Par exemple, en France, les mouvements politiques qui se trouvent contrariés par l'application des lois n'ont pas hésité à s'en prendre aux juges qui avaient pour tâche d'appliquer les dispositions adoptées par ces mêmes élus quelques années auparavant. Aux États-Unis, les juges qui rendent des décisions qui déplaisent au président reçoivent des menaces et des invectives. On ne doit jamais tenir les droits fondamentaux pour acquis. Poussés par des bouffées populistes, des gouvernements n'hésitent plus à multiplier les mesures afin de compliquer l'examen judiciaire des lois qui paraissent incompatibles avec le respect des droits et libertés garantis par les chartes. Les droits et libertés sont à la merci des humeurs de dirigeants prompts à considérer que leur vision du gros bon sens et de notre mode de vie sont des justifications suffisantes pour rayer les droits de ceux qui les dérangent. C'était Une année de recul des droits et libertés. Un texte de Pierre Trudel, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.